DW, l'arbre à palabres.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Sous l'arbre à palabres, un magazine consacré cette semaine à l'actualité électorale au Sénégal avec le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février prochain. 5 candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel. Outre celle du chef de l'État sortant, Macky Sall, le Conseil a validé les candidatures du député Ousmane Sonko, ancien haut fonctionnaire et qui est une figure montante de la classe politique ou de l'opposition sénégalaise. On a aussi la candidature de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, d'un proche de l'ancien président Abdoulaye Wade, Madi Kenyang, et du candidat du parti de l'unité et du rassemblement El Hadj Sall sont définitivement, ou bien ont été définitivement écartés, les deux principaux opposants du président Macky Sall, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre et fils d'Abdoulaye Wade, Karim Wade. Les sept sages de la Cour constitutionnelle ont estimé que voilà, les candidatures de ces deux précités ne pouvaient pas passer. La campagne électorale, elle, démarre ce dimanche 3 février. En attendant, on va essayer d'analyser avec nos invités les enjeux du scrutin sur fond de joute politicienne. Beaucoup d'analystes estiment que le président Macky Sall s'est offert un boulevard après l'élimination de ses principaux concurrents. On verra ce qu'en pensent nos trois invités. Alors, le premier est en ligne de Paris, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous suivez très bien l'actualité au Sénégal. Bonjour, monsieur Dupuis. Voilà, nous sommes également en ligne avec monsieur Bakary Samb, le président du Timbuktu Institute, basé à Dakar. Bonjour, monsieur Samb.
Bonjour, monsieur.
Nous sommes également enfin en compagnie de Madame Annette Lohmann, qui est la représentante résidente de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, basée au Sénégal. Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur Topona.
Et à la présentation donc de ce débat, c'est bien Eric Topona. Merci de votre fidélité à nos programmes.
DW, le monde à votre portée.
Comme je le disais, dimanche 3 février, eh bien, ce sera le début de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal. 5 candidats sont en course, dont le président sortant, Macky Sall. Et je l'ai également dit, deux des principaux concurrents au président, Macky Sall, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, et Karim Wade, voilà, ont vu leur dossier de candidature invalidée. Est-ce la confirmation, Bakary Samb, que le président Macky Sall a tout fait pour s'offrir un boulevard et pour se faire élire?
Bonjour tout le monde et je salue mes collègues à l'antenne avec moi. Je ne dirai pas cela, mais d'abord ce qui m'intrigue, c'est que nous sommes à la même situation qu'en 2011.
Allô, monsieur Samb? Ah, la ligne nous a lâché. Vous m'entendez, monsieur Samb? Ah, décidément, la ligne nous a joué un sale tour. Peut-être je vais reposer la même question à M. Emmanuel Dupuis. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que le président Macky Sall a tout fait en éliminant les adversaires qui pourraient lui faire de l'ombre, en l'occurrence Khalifa Sall et Karim Wade?
Alors déjà, ce sont les juges constitutionnels qui ont décidé qu'il y aurait 5 et non pas 7 candidats. Donc ça, il faut évidemment être précis par rapport à ça. Mais il faut effectivement avoir à l'esprit que le président Macky Sall espérait, ou espère toujours, avoir une victoire par KO et donc être élu dès le premier tour. Alors les récents sondages, en tout cas le dernier, le crédit de 40 à 42%, donc on est encore loin de cette perspective, mais je crois qu'il y a sans doute une résilience de l'opposition, notamment avec celle incarnée par Idrissa Seck. Donc je pense que... je ne crois pas que le président Macky Sall a devant lui un boulevard. Néanmoins, il bénéficie, ou il a bénéficié dans les récentes heures ou les jours passés, de ralliements d'importance, notamment le maire, député-maire de Zingachor, président de l'Union centriste sénégalaise, qui du reste a fait un meeting il y a quelques jours, Abdoulaye Baldé, ou son ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, enfin débarrassé de ses ennuis judiciaires aux États-Unis, avec son parti, le MPCI, qui a décidé de soutenir le président. Et bien évidemment, la dernière ralliée, mais qui n'est non des moindres, l'avocate Aïssata Tal Sall.
Oui, qui a décidé donc d'apporter son soutien au président Macky Sall.
La maire de Podor, qui, il y a quelques jours, hein, elle également a apporté son soutien. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie de rassemblement, de plateforme, que joue le président Macky Sall, dont ne bénéficient pas encore les anciens, ses autres concurrents, quoique il y a de cela quelques jours, Khalifa Sall et Idrissa Seck se sont rencontrés, peut-être en vue d'un deuxième tour, en tout cas, dans une perspective que le premier soutienne celui, l'ancien Premier ministre qui est candidat.
D'accord. Alors, Annette Lohmann, vous êtes la représentante résidente de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung à Dakar. Comment est-ce que vous analysez le fait que les deux principaux candidats, Karim Ouad et Khalifa Sall, aient été écartés de cette course à la présidentielle?
Bon, bonjour à tous. Karim Ouad et Khalifa Sall ne peuvent pas se présenter car ils ont été exclus pour des motifs judiciaires. Mais je pense il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que ni Karim Ouad ni Khalifa Sall ont assez de popularité dans partout du Sénégal pour vraiment défier le président. Et dans ce contexte, la question intéressante est pour qui leurs militants vont voter au lieu. Et il y a plusieurs options. On a déjà entendu parler de rassembler des différentes plateformes, et ça c'est très pertinent. Mais il y a plusieurs options. Ousmane Sonko pourrait allier l'électorat de Khalifa Sall et de Karim Ouad. Le président Macky Sall pourrait rallier l'électorat de Khalifa Sall car il a annoncé une grâce en faveur de Khalifa Sall s'il est réélu. Les leaders du parti pur, Mustafa Sy, s'affichent assez proche de Khalifa Sall aussi. Ça pourrait être intéressant. Et récemment, comme on a déjà entendu, on voit une alliance ou des plusieurs alliances qui sont en train de se former, notamment autour d'Idrissa Seck et de l'opposition qui maintenant se tenue par des candidats récalés de Khalifa Sall et Karim Ouad et également le président sortant Macky Sall. Et je pense à la fin, le candidat qui va forger l'alliance le plus fort va gagner et ça c'est aussi vrai pour le président.
Oui, et comment est-ce que vont réagir les électeurs de l'AFP, l'Alliance des forces du progrès de Monsieur Moustapha Niass et ceux du PS d'Ousmane Taner Diagne? Pour qui vont-ils voter? Est-ce qu'ils vont suivre leurs deux leaders?
Comme en 2012. Alors c'est une option évidemment. Maintenant la vraie question c'est est-ce que les leaders politiques ont encore la capacité de mobiliser leurs militants? Est-ce que les militants vont les suivre tout simplement? Et évidemment est-ce que le président Macky Sall peut jouer sur une capacité d'action avec la continuité et les moyens de l'État, il faut le rappeler, peut effectivement être dans une logique d'achat de voix, de prébende, et de ce point de vue-là, les prochaines journées, puisque vous avez fort justement rappelé que la campagne électorale n'avait pas commencé et qu'elle ne commencerait que dimanche, vont pouvoir être mises en avant. Donc là aussi, il y a sans doute un regard très 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 particulier à porter sur la manière dont les ordres, si j'ose dire, ou la mobilisation des leaders politiques ont encore une prise sur les militants, sachant que ce qui pâtit principalement aux opposants de Macky Sall, c'est le fait qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment de structuration militante dans le pays pour pouvoir évidemment peser face à un président qui, avec les ralliements et les partis et donc les ralliements des militants, je ne prends que cet exemple parce que c'est le plus récent, l'Union centriste sénégalaise, qui évidemment a une présence dans le sud, notamment, enfin plus précisément dans le sud, a apporté son soutien dans sa totalité. Donc il faudra regarder la manière dont les congrès ou les futures réunions se passent, et puis bien évidemment prendre en compte le fait qu'il faille penser à la coalition des opposants à Macky Sall, non pas dans une logique de premier tour, mais peut-être dans une logique de second tour, car je crois qu'on ne s'oriente pas vers une élection dès le premier tour, je peux me tromper en tout cas, c'est ce que le président espère, mais je crois que la configuration des derniers sondages, où Ousmane Sonko est crédité de 15 à 16%, où Idrissa Seck est crédité de 20 à 22%, rend évidemment l'architecture ou l'alchimie d'un deuxième tour sans doute un petit peu plus compliqué à envisager que ne le pensait le président Macky Sall.
D'accord. Annette Lohmann, ces derniers temps, on a craint la résurgence des milices. La campagne électorale risque d'être tendue. Est-ce que vous craignez vraiment des violences pendant cette campagne électorale?
Oui, je pense qu'il faut savoir que aussi en dehors de la période des élections, il y a toujours, très souvent, très régulièrement des manifestations violentes, notamment par des étudiants qui sont frustrés avec des retards et problèmes concernant le paiement de leur bourse. Derrière ça, bien sûr, se cachent des grandes frustrations, des frustrations socio-économiques, ça veut dire même avec une bonne éducation, un bon travail, disons adéquat aux qualifications, avec des bonnes conditions, n'est pas du tout garanti. Et par exemple, chaque année, près de 200 000 jeunes arrivent sur le marché du travail et seulement presque 500 000 emplois ont été créés dans les dernières saisons. Et alors, il faut rappeler que la croissance économique ne bénéficie pas à l'ensemble de la société et ça pose problème pour la stabilité du Sénégal. Mais pour retourner en fait à votre question, oui, je pense le risque est là de voir de la violence pendant les élections pour deux raisons. Premièrement, la violence électorale, malheureusement, est un phénomène périodique. Et deuxième, comme vous avez déjà mentionné, avec l'empêchement des candidatures de Khalifa Sall et Karim Watt, on a bien sûr créé des grandes frustrations parmi leurs militants. Et c'est pas encore clair comment ils vont réagir, mais on a déjà vu des premières manifestations et des premiers problèmes dans les derniers jours.
D'accord. Alors, Emmanuel Dupuis, hein, vous connaissez bien la sociologie électorale et politique du Sénégal. Est-ce que vous craignez hein, des violences pendant la campagne, puisqu'il y a quelques jours, on a eu dire hein, qu'il y avait voilà, l'apparition des milices de part et d'autre?
Alors, c'est évidemment un risque qui n'est pas seulement lié au processus électoral, ou d'une certaine façon qui est générique à l'ensemble de la sous-région, mais je crois que il faut avoir à l'esprit que la vitalité politique sénégalaise s'exprime beaucoup dans ce lien maintenant devenu consubstantiel de l'émergence d'une société civile qui ne se reconnaît plus forcément dans l'exercice politique, c'est ce que j'ai voulu dire auparavant, le phénomène de l'attrition ou du hiatus qui peut exister entre les slogans politiques, le leadership politique et les militants est de plus en plus évident, nourri par les réseaux sociaux, nourri par d'autres formes de mobilisation. Et puis surtout, il faut avoir à l'esprit que Macky Sall, d'une certaine façon, un peu comme le président français, un petit peu choisi à dessein d'avoir ses propres réseaux au sein de la société civile ou auprès des corps constitués, en se départissant ou en n'ayant pas forcément une vision très globale, très équilibrée de cette relation avec les corps constitués. Donc peut-être qu'il peut y avoir ce problème. D'accord. De la même manière que la mobilisation estudiantine, on pense à la mobilisation estudiantine à Saint-Louis du Sénégal, il y a de cela quelques mois, où les doléances d'un certain nombre de catégories professionnelles, socio-professionnelles, je pense notamment aux agriculteurs, oui, mais surtout aux pêcheurs, peuvent là aussi poser une certaine forme de pression sur le président par rapport à des problèmes de diplomatie frontalière avec la Mauritanie ou par rapport tout simplement avec une insuffisante prise en compte du caractère homogène du lien politique entre le centre et la périphérie. Il faut avoir à l'esprit que l'ouverture du pont trans-gambien est aussi un outil électoral qui peut justement essayer de compenser le fait que le président Macky Sall, en s'associant de nouveau avec des forces politiques très localisées, peut essayer de rejouer ou de renouer cette cohésion sociétale et nationale qui, semble-t-il, n'a pas joué jusqu'à, en tout cas durant les années précédentes de son mandat.
Voilà, je vais laisser réagir M. Bakary Samb. Alors, M. Bakary Samb, j'ai demandé aux autres invités hein, ce qu'ils pensaient de l'invalidation de la candidature de Karim Wade et de Khalifa Sall. Ne craignez-vous pas que cette invalidation ne puisse cristalliser les violences pendant la campagne électorale?
Oui, je pense que l'invalidation de ces deux candidatures était quand même attendue au regard des mesures que le pouvoir a prises. Je ne sais pas, la justice aidant peut-être, mais je crois que l'opposition tente d'échapper à un piège stratégique de la part du pouvoir en place. C'est-à-dire que au lieu de continuer dans la violence, dans la manifestation, etc., elle est en train de s'organiser pour créer des pôles puissants. Aujourd'hui, il y a deux pôles puissants qui se dégagent autour de la jeunesse, etc. On verra ce que cela va donner. Mais c'est logiquement une grande alliance qui se dessine aujourd'hui autour du RISPEC, autour de candidats qui sont en train de se rejoindre. avec les manœuvres de Taïwan. Quoi que là, il y a quelque chose de très sérieux qui s'est dit et qui est menaçant pour le pouvoir en place et que le pouvoir n'avait pas prévu et en focalisé jusqu'à présent.
Et donc Macky Sall ne pourra pas être élu dès le premier tour comme il le souhaite, hein, c'est ça?
Je ne suis pas dans le secret de vie ni dans la perspective hasardeuse des sondages, mais je crois que la situation devient beaucoup plus complexe aujourd'hui que s'il avait en face de lui des candidats isolés, un programme autour d'un idéal aujourd'hui par le biais du parrainage. Qui malheureusement se sont retournés contre la stratégie de départ, n'a créé comme défaut important que le parrainage nous présente aujourd'hui une élection lisible. Les 5 candidats qui m'ont parlé, les Sénégalais vont suivre, c'est que tous les 4 candidats sont plus ou moins contre lui. Je pense qu'il a pu dessiner le poids de l'opposition. Tout n'existait pas avant le parrainage, et que par le fait du parrainage aujourd'hui, il doit faire front, il doit faire face à 2 fronts, alors qu'il n'en avait.
D'accord. Alors, Madame Annette Lohmann, on sait que dans beaucoup de pays africains, lorsqu'on parle d'élections, on fait allusion à des fraudes, à des tripatouillages, comme ce fut le cas en République démocratique du Congo. Est-ce que le scrutin du 24 février au Sénégal sera crédible?
Bon, bien sûr, c'est impossible de le savoir avant des élections. Il y a déjà une mission de l'Union européenne sur place pour une observation. En plus, il y a des ONG sénégalaises qui vont s'engager aussi dans ce sens. Et bon, je pense qu'il y aura une très bonne observation des élections.
D'accord. Emmanuel Dupuis, il me semble que votre institut va également dépêcher sur place, non, une mission d'observation électorale. Est-ce que vous pouvez déjà garantir, au regard des éléments que vous disposez, hein, la crédibilité du scrutin du 24 février?
Comme ma collègue de la Fredrik Schaeffer Stiftung, je ne peux évidemment pas pratiquer l'art divinatoire, donc je ne sais pas comment les choses vont se passer. Néanmoins, il y a quand même quelques garde-fous et quelques réalités ou conditions qui me permettent de penser que ce scrutin sera plus regardé que les autres, en tout cas il sera plus documenté que celui qui aura lieu en même temps, c'est-à-dire le scrutin présidentiel au Nigeria, qu'il y a une forte mobilisation non seulement de l'espace francophone, et ma collègue allemande a raison de dire que le Parlement européen a déjà a préparé une mission de surveillance électorale, mais pas seulement le Parlement européen, évidemment l'Organisation internationale de la francophonie. Du reste, ce sera la première observation électorale de la nouvelle secrétaire générale Louise Michikiwambo. Donc il y a là aussi un intérêt également non seulement du continent européen, mais également d'autres partenaires. Je pense notamment aux partenaires d'outre-Atlantique, les États-Unis, qui ont là aussi, avec la nouvelle stratégie de monitoring électoral qui est la leur, comme ils l'ont montré avec la RDC, seront très vigilants. Et puis, bien évidemment, il y a des ONG, il y a des représentants des partis politiques, la société civile, qui, évidemment, va regarder, non seulement à Dakar, mais dans l'ensemble des territoires sénégalais, la manière dont les choses se passent. Mmh. Donc, je crois qu'il faut aussi inscrire le Sénégal dans une pratique démocratique qui est sans doute singulière dans l'espace ouest-africain, avec là aussi une certaine forme de modélisation qui fait partie aussi de la manière dont le président Macky Sall espère ou entend ou estime jouer un rôle leader au sein de la communauté ouest-africaine au niveau de la CDAO, mais bien au-delà dans sa relation avec le Maroc, en tant que d'une certaine forme de diplomatie qui permet de montrer que au Sénégal, contrairement à d'autres scrutins, je ne prends que le scrutin malien, eh ben il y aura beaucoup plus de transparence. Mais encore une fois, je n'en sais pas plus que chacun d'entre nous.
Alors, Bakary Samb, on a entendu quelques candidats à cette élection présidentielle émettre des doutes sur la crédibilité, sur la transparence de cette présidentielle du 24 février prochain. Est-ce que vous avez cette même appréhension?
Oui, il est vrai que la manière dont les cartes d'identité, les inscriptions sous le ministère électoral a été géré, ça a été critiqué par l'opposition. L'opposition qui a mis en doute la sincérité du ministre de l'Intérieur, qui un jour a dû dire dans une émission que ce qui lui importait, c'était de faire voter les gens, donc c'est sûr qu'ils voteraient pour le pouvoir. Donc, ces genres de déclarations ont pu semer le doute. De notre côté, je crois que le fichier électoral aussi, aujourd'hui, l'opposition va aller aux élections malgré réserve et ne pas tomber dans le piège du boycott comme annoncé au début. Et je crois qu'il y a toutes ces craintes-là qui planent sur nous. Et le paradoxe aujourd'hui, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure,
Emmanuel Dupuy.
C'est le paradoxe d'un Sénégal, Emmanuel Dupuy, voilà, que je salue au passage, c'est le paradoxe d'un Sénégal considéré comme une vitrine démocratique et un exemple à suivre dans la région, mais hélas, ce Sénégal-là, depuis quelques semaines, commence à être vu la communauté internationale comme un pays déjà en crise, avec toutes ces missions d'observation, etc. Donc ça c'est pas une nouveauté, et je crois que aujourd'hui, tout le monde attend, on se dit, est-ce qu'il va amener ces élections-là? Le Sénégal va-t-il réitérer son rôle en droit à sa place, comme étant un pays de démocratie instituée, ou bien on tombera dans une crise politique? Bon, quelle qu'en soit la situation, je pense qu'il y a encore des leviers de médiation, comme les chefs religieux, il y a aussi un peu la communauté internationale. Mais je crois que ce qui interroge tous les Sénégalais aujourd'hui, c'est sont des élections vers lesquelles on y va sur fond de grandes interrogations dans un pays où on a découvert des hydrocarbures et des ressources naturelles. C'est ça qui passe dans la tête de tous les Sénégalais. Comment on va arriver à réussir ce tournant en entrant dans une démocratie apaisée pour exploiter ces ressources-là à l'horizon 2021.
Et donc l'opposition ou bien les candidats de l'opposition en l'état actuel n'ont pas trop de chance de leur côté, c'est ce que vous voulez dire?
Non, je sais que l'opposition, je pense, est en train d'appliquer une stratégie double. D'un côté, une stratégie de la pression avec ces menaces qu'on entend de la part de certains jeunes du PDS d'empêcher le scrutin le 24 février prochain. Mais en même temps, d'autre côté, se dire que, OK, on sème un peu, je veux dire, on est dans la pression politique avec la rue, aussi une mobilisation, mais en même temps, on ne lâche pas de l'autre côté en faisant le cadeau du boycott au pouvoir ou de la démobilisation. On va aller à fond dans les élections, on va jouer un double jeu sur le processus électoral, c'est-à-dire on va aux urnes, en même temps, on met la pression sur le gouvernement pour éviter d'éventuels cas de fraude ou, en tout cas, de dénaturation de l'expression de la volonté populaire.
On va évoquer un peu le bilan, on va essayer de dresser le bilan du président Macky Sall, avec notamment le PSE, le plan Sénégal émergent. Annette Lohmann, est-ce que la réalisation en partie de ce plan ne pourrait pas plaider en la faveur du président sortant, Macky Sall?
Oui, absolument. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est probable que Macky Sall va gagner le 24 février avec une deuxième tour. Bon, ça, il faut voir. Mais bien sûr, la concrétisation de plusieurs projets d'infrastructure est absolument un avantage pour lui, sans question. Il reste toujours la complétation des choses à faire, ça c'est aussi clair, mais il a gagné aussi le soutien encore de la communauté internationale pour la deuxième phase du PSE. En plus, il y a d'autres avantages comme l'avantage en général du président sortant. Il a eu des forts résultats dans les législatives en 2017, notamment dans le milieu rural. Il a le soutien de la coalition gouvernementale. L'opposition ne sont pas assez forts pour le moment. Ils peuvent se réunir, oui, mais je pense qu'il est dans une très bonne position pour regagner.
Alors, vous avez le même sentiment, Emmanuel Dupuy, les différentes réalisations du président Macky Sall vont plaider en sa faveur?
Forcément, et c'est sans doute là où est le problème. Il est président sortant, il est président candidat, en tout cas, il est président jusqu'au 3 février, et donc forcément, comme la campagne n'a pas commencé, mais les meetings électoraux, eux, ont commencé de la part de ses partenaires et de ses soutiens, enfin de ses ralliements, on voit bien que les réalisations au niveau économique ou le rôle de stabilisateur ou le rôle de médiateur font partie. Je pense notamment au rôle que le Sénégal a pu jouer dans la crise post-électorale en Gambie, joue évidemment en la faveur d'un Macky Sall qui est un havre de stabilité et d'une certaine façon, il n'y a pas de grande différence avec les précédents scrutins, que ce soit ceux en 2016 au Niger avec Issoufou ou encore récemment, l'été dernier, au Mali avec Ibeka. Donc évidemment, la carte qui plaît ou qui sied à la communauté internationale, c'est d'avoir un président qui est dans la continuité, qui est dans la continuité en matière sécuritaire. Le Sénégal n'est pas membre du G5 Sahel et pourtant le Sénégal est structurant de l'offre sécuritaire. Le Sénégal d'ailleurs participe à la MINUSMA en ayant envoyé des troupes. Le Sénégal joue profondément l'apaisement diplomatique avec sans doute une nouvelle phase diplomatique qui est en train de s'ouvrir avec la Mauritanie, avec la perspective là aussi de la prochaine élection présidentielle et le départ du président Aziz. Et évidemment, Macky Sall joue parfaitement en tant que chef d'orchestre d'une diplomatie qui est une diplomatie transcontinentale avec de nouveaux partenaires. Je pense notamment aux pays du Golfe. D'une certaine manière, tout le monde se rend au Sénégal. À l'époque du président Ouad, il y avait un rapprochement qui s'était manifesté entre les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à l'époque où le Sénégal l'a présidé en 2014, notamment avec le Kazakhstan. Et l'on voit bien que des pays comme le Qatar, avec l'émir Al-Thamine qui s'est rendu il y a 6 mois de cela à Dakar, ou le cher Ben Zayed des Émirats Arabes Unis, on voit bien que le Sénégal développe, et bien évidemment, je n'oublie pas l'Arabie Saoudite, évidemment, avec la participation du Sénégal au forum de l'investissement du prince héritier Mohamed Ben Salman, joue évidemment la complémentarité, la multiplication du soutien à la communauté internationale.
D'accord.
Mais la principale difficulté, et je termine d'une phrase, c'est d'avoir un président pour lequel la Constitution ne l'empêche pas de bénéficier des moyens de l'État, et bien évidemment, avec cette difficulté de la différence des moyens dont vont disposer les 5 candidats, avec là aussi un hiatus entre les candidats de l'opposition et les candidats du parti. Présidentiel.
Voilà, merci. Je vais voir ce qu'en pense M. Bakary Samb. Est-ce qu'en dépit de toutes les critiques formulées par les candidats de l'opposition, le président Macky Sall n'a-t-il pas fait preuve, fait la preuve que, voilà, qu'il est un président qui bâtit, Est-ce que le bilan du président Macky Sall ne va pas plaider en sa faveur?
C'est un des conseillers du président de la République, notamment Moubarak Lo, qui a dit récemment que le bilan ne suffit pas pour réélire le président. Donc je n'ai rien inventé. Mais en analysant la chose, je me dis que je pense qu'il met en avant stratégiquement les réalisations d'Amiado, les installations de PSC. Alors que l'étude que Timbuktu Institute vient de réaliser, quand on demande aux jeunes, qui sont la majorité des votants, à peu près 60%, quand on leur demande quels sont les priorités, quelles sont vos attentes pour le président de la République, quelles sont vos priorités, les infrastructures arrivent en avant-dernière position. Les jeunes mettent en avant l'emploi, l'éducation, la santé, les grandes questions sociales qui, à mon avis, n'ont pas été traitées. D'ailleurs, le président Macky Sall lui-même dit qu'il y a un regret dans son mandat de ne pas pouvoir se faire pour l'emploi des jeunes. Je crois qu'il y a encore des questions sociétales très importantes. Pas pour l'emploi des jeunes, la crise de l'éducation, qui sont des questions culturelles, qui ne sont pas proprement origines matricales, mais si on se base seulement sur les réalisations, pour dire que le Sénégal va mieux, matricales, etc., je pense que c'est une analyse un peu biaisée, parce que d'après vraiment les retours que nous avons, nous avons beaucoup travaillé sur les jeunes dans la banlieue de Carouaz, on vient de finir une enquête dans les grandes circonscriptions électorales du pays, les jeunes mettent les infrastructures, l'avant-dernière position, mettent en avant la question du chômage, la question sociétale et la question de l'éducation et de l'insertion. Face à une jeunesse aujourd'hui, on pourrait dire une jeunesse angoissée et qui est en face de mutations profondes de la société sénégalaise qui, à mon avis, n'est pas assez écoutée. Vu le succès relatif qu'on voit au niveau de Ousmane Sonko et d'autres personnages de l'opposition.
Voilà, nous allons bientôt nous séparer à la fin de ce magazine. Mais j'ai une toute dernière question. Beaucoup d'analystes au Sénégal ont déploré l'absence, cette fois-ci, des principales formations politiques comme l'AFP, l'Alliance des Forces de Progrès de Moustapha Niass ou le PS d'Ousmane Tanur Dieng. Alors, Annette Lohmann, est-ce que vous n'avez pas aussi regretté que ces deux principales, ou bien l'une de ces deux principales formation n'est pas présentée de candidat à cette élection présidentielle?
Bon, le président a besoin du soutien de la coalition gouvernementale pour gagner, mais la coalition a aussi besoin du président, car ils n'ont pas leur propre candidat parce qu'ils ne peuvent plus se présenter eux-mêmes. Et pour eux, la meilleure option est de soutenir le président. Et oui, je pense que les leaders et également les militants vont soutenir Macky Sall, et il y a des structures partout dans le pays. Pour le PS, je pense que les prochaines élections présidentielles en 2024 seront beaucoup plus intéressantes et décisives parce que le président Macky Sall ne peut plus se présenter en 2024 et la compétition sera beaucoup plus ouverte en ce moment. Mais je pense qu'il faut aussi noter une autre absence, et ça c'est l'absence vraiment des jeunes et des femmes leaders politiques. Il y avait des candidates, mais ils n'ont pas atteint le minimum de 52 000 signatures nécessaires comme prévu par le parrainage. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a un manque de moyens, il y a l'impossibilité d'émerger dans des partis politiques, il y a une fuite vers les ONG à cause de ces frustrations, etc. Et un autre, vraiment, une absence des femmes et des jeunes. Si vous prenez l'exemple de l'Assemblée nationale pour les jeunes, parmi les 165 députés, il n'y a que 4 députés qui ont moins de 35 ans. C'est un peu mieux pour les femmes grâce à la loi de la parité, mais je pense en principe on peut dire ou on peut parler d'une crise de la représentativité dans les différentes instances politiques.
D'accord. Emmanuel Dupuis, ça ne vous a pas gêné l'absence de candidats issus de ces principales formations politiques, l'AFP de Moustapha Niass et l'EPS dirigé par Ousmane Tanor Diagne?
Et le PDS également, mais je crois que l'exclusion, évidemment, pour tout démocrate, n'est pas une bonne nouvelle. Néanmoins, moi, je vois l'apparition d'une nouvelle forme de représentativité politique. C'est vrai qu'il y a un manque de représentativité ou une insuffisante diversité dans la représentation politique traditionnelle, mais il y a aussi, et il faut rendre un hommage, ce n'est absolument pas un soutien, mais Ousmane Sonko, qui pour l'instant n'a pas une plateforme électorale militante très forte, mais qui est arrivé avec une mobilisation sur les réseaux sociaux, qui a une forte présence, une image ou un impact digital de plus en plus fort, en tout cas plus singulièrement identifié que les cinq autres candidats. Et évidemment, il faut avoir à l'esprit qu'il y a sans doute une nouvelle forme de faire la politique au Sénégal, comme un petit peu partout. Ce fut le cas au Burkina Faso et on sait ce qu'il en advint, avec des formes de mobilisation beaucoup plus citoyennes, avec là aussi, je m'inscris dans ce qui a été dit par ma collègue allemande, une sorte de brain drain paradoxal où la situation économique du Sénégal attirant de plus en plus d'investisseurs étrangers, la plupart des élites sénégalaises ne vont plus vers la politique, ils ne vont plus singulièrement vers l'administration, mais vont vers les entreprises dont la présence est locale, mais dont la présence aussi et les actions sont à la fois régionales et s'inscrivent dans une forme d'émergence d'une nouvelle économie sénégalaise. Et de ce point de vue, ce brain drain ne bénéficie pas au renouvellement des élites politiques et bien évidemment ce qui va contribuer à la mort de certains partis politiques et l'apparition d'ici 2024. J'espère qu'on n'attendra pas le prochain scrutin présidentiel pour cela, avoir des formes nouvelles d'expression politique.
D'accord, je vais laisser conclure ce débat. Voilà, monsieur Bakary Samb, un mot de conclusion, vous pensez vraiment que l'absence des principales formations politiques de l'opposition ou bien celles qui soutiennent Macky Sall, ce n'est pas un drame?
Ce qui a été extraordinaire dans le parcours de président Macky Sall, c'est son parcours fulgurant politiquement. Un président né après l'indépendance et qui paradoxalement ramène sur le environnement politique tous les anciens classiques qui ont été repoussés par les jeunes pendant 40 ans. Ça a été un paradoxe. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris que c'est parti la péri petit à petit et que la grande surprise quand même, en tout cas la nouveauté de cette élection, c'est la première élection depuis plusieurs années, des décennies, sans Abdoulaye Wade. Donc l'absence, d'une part, des ténors socialistes et de l'autre, d'un ténor comme Abdoulaye Wade, c'est qu'il y a quand même là des signaux de renouvellement du système politique sénégalais. Les Sénégalais ont envie de quelque chose de nouveau. Est-ce que maintenant l'offre des politiques va satisfaire à cela? Je ne pense pas être déçu, parce que je crois que pour le moment, Il n'y a pas d'ordre politique. Tout le débat, c'est un débat institutionnel. Mmh. Et on est en train de revivre les mêmes événements qu'en 2011, avec des crises institutionnelles, la question des constitutions, et que les grandes questions sociétales, l'éducation, l'emploi des jeunes, la manière de gérer les ressources naturelles que nous avons aujourd'hui, ces questions-là sont en suspens. Mmh. Et je pense que la classe politique devrait prendre cela en charge.
Nous sommes arrivés au terme de ce magazine sous l'arbre à palabre et nous avons tenté d'analyser un peu les enjeux de l'élection présidentielle du 24 février prochain au Sénégal avec nos invités. Mais avant de nous séparer, il faut aussi dire, et Emmanuel Dupuis en parlait, il y a d'autres élections prévues en Afrique. Voilà, on peut parler du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et de la Tunisie. Nous allons, comme je l'ai dit, tenter d'y revenir dans une prochaine édition du magazine Sous l'arbre à palabre. Je rappelle aussi à nos auditeurs qui ne le savaient peut-être pas que la campagne électorale débute ce dimanche 3 février, dans quelques jours. Donc au Sénégal, et 5 candidats sont en lice. Le président sortant, Macky Sall, et l'ancien Premier ministre Idriss Sec, un ancien proche du président Abdoulaye Wade, Madi Kenyang, El Hadj Sall, et puis un jeune ovni politique, on en a également parlé, le député Ousmane Sonko, qui est un ancien haut fonctionnaire et qui est considéré comme l'une des figures montantes de la classe politique sénégalaise. Nous étions en compagnie donc avec Madame Annette Lohmann, qui est donc la représentante résidente de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung du Sénégal. Nous étions également en compagnie de M. Emmanuel Dupuis qui préside l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, dont le siège est basé à Paris, en France. Et enfin, nous étions également en compagnie du président du Timbuktu Institute, Bakary Samb. Chers invités, merci encore une fois d'avoir accepté de participer à ce débat.
Merci.
Et au micro, donc, c'était Eric Topona à la présentation de ce débat et je vous laisse en compagnie du reste des programmes de la Deutsche Welle.